Et si on en parlait ? Une émission parrainée par le restaurant Le Sud, place André Lescure à Villefranche-de-Rouergue. Le Sud, pour ne pas perdre le Nord. Bonjour, une nouvelle émission de Si on en parlait, il fait un temps magnifique. Marie-Laure n'a jamais été aussi louve qu'aujourd'hui. Et mon invité, c'est mon beau-frère Philippe Pascotto qui vient régulièrement. Mais là, il vient pour un truc bien spécial, c'est pour fêter les 8 ans de son restaurant Le Sud.
Eh oui.
Le temps passe.
Le temps passe, oui.
8 ans, quand même. Rappelle-nous l'adresse du restaurant.
Mais c'est sur la place Lescure, numéro 1. Le restaurant qui est peint tout en bleu.
Donc à Villefranche-de-Rouergue.
Voilà, avec un beau vélo.
Voilà, un beau vélo. La place qui est juste en dessus de la collégiale.
De la place de la collégiale, voilà.
Tout à fait, super. 8 ans.
8 ans déjà, oui.
Ouais. Ton premier restaurant a été créé il y a combien de temps ?
Mon premier restaurant, oui. Le tout premier ? Oui. J'avais 25 Fijac. Ans. Ça s'appelait la table de Sophie à Figeac. Voilà, c'était première aventure.
Maintenant, tu as 26 ans.
Maintenant, j'en ai 26.
Et n'empêche, depuis ce temps-là, l'eau a coulé sous les ponts. Il y a eu beaucoup d'aventures.
Hein. Oui, j'ai vu que l'eau du Lot et puis celle de l'Aveyron. Ma foi, les deux rivières se sont mélangées.
Est-ce qu'on peut dire que, comme le chat, tu as presque 9 vies?
Oui. On pourrait le dire.
Il y a eu plein de. Oui, d'anecdotes qui ont fait que chaque fois tu t'es dit là c'est mort pour moi et puis en fait non.
Eh bien,
le chien d'âme ne crève jamais.
Je ne suis pas encore tout à fait mort. Voilà.
Fait quoi de fêter 8 ans au même endroit d'un lieu?
Je peux dire que cette année ça m'a fait trembler parce que bon après ces mois d'absence sur la scène culinaire villefranchoise, c'était pas évident comme Paris de réussir à remettre le bateau à flot. Comme je dis, pendant cet hiver, j'ai eu l'impression d'escalader une cascade de glace. Alors vu que je ne suis pas alpiniste, j'ai tout piloté à vue et au nez. Et maintenant, le soleil arrivant, en cette fin de mois de février.
Tu vois le bout du tunnel.
Je vois là, enfin le bout du tunnel.
Mais quand on est quand même comme toi, tu as une sacrée expérience de ça. Tu n'as jamais l'art culinaire, de la méchanceté, de la connerie, des lois, peut-être le tout mélangé. Mm-hmm. Tu sais te battre quand même.
Je crois qu'il faut avoir une foi irréductible en soi et puis dans les autres. D'ailleurs, si on fait cette soirée samedi, puisque.
Ouais, c'est une soirée. Soirée spectacle samedi.
Il y aura une soirée spectacle, mais également un apéritif. Pour fêter les 8 ans du Sud, un apéritif offert, je tiens à le dire, à tous les amis de 19 jusqu'à 20h. C'est pour remercier tous ceux qui m'ont donné foi en moi-même. À savoir que, tous les jours, notamment cette année, j'ai pu le constater, il y a tout un tas de gens qui m'ont redonné le sourire et que j'aimerais remercier ce soir-là, qu'il s'agisse, les deux bouchers qui m'entourent, le pavillon du Cos et Jean-Michel Malzac, qu'il s'agisse même de mon plombier qui me maudit, qui s'appelle Hervé Renaud, qui est un garçon fantastique, qu'il s'agisse mais de tous les gens que je croise, la marchande d'herbe sous les couverts de la collégiale, il y en a tellement, en fait.
Le maire et les gens des services de sécurité.
Aussi.
Et ton
aussi,
assureur.
Aussi. Non, mon assureur, je ne remercie pas, mais je remercie néanmoins Monsieur Champeval du Crédit Lyonnais qui m'a bien épané. Bon, même si c'est dans l'éphémère, parce que bon, on le sait, ils ont tous leurs limites. Mais bon, voilà quoi. David Douzièche, Bernard Verne, etc. Quoi, tous les gens qui m'ont.
Est-ce que les villes franchoises se sont dit merde, il faut aider ce restaurant. Qui est un des restaurants qui fait Villefranche quand même.
Je crois que oui. Leur présence n'a jamais été ne s'est jamais tari, voilà. Néanmoins, il faut tenir compte du fait que bon, la vie n'est pas facile pour tout le monde. Bien sûr, en ce moment, les restaurants sont moins remplis. Ils ont toujours été là, et même s'ils sont moins, je peux dire que c'est toujours avec plaisir qu'ils reviennent et qu'ils nous le font sentir. Quoi. Ils nous disent, voilà, on est content, on a eu peur. Beaucoup ne donnaient pas cher de la peau qui reste, en fait, de la peau du Sud. Mais comme on en a qu'une, on a pris soin. Voilà.
Bien sûr. Est-ce que tout ça n'est pas parti, en fait, d'un quiproquo? C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement un problème qui n'était pas du tout ce qu'un stagiaire de la Dépêche a relaté sur la Dépêche, et ce qui a fait sa montée en exergue, une connerie, un peu. Même.
Oh, je crois que non. Je pense que les gens connaissent l'établissement et que, bon, derrière, il n'y a pas eu... Bien sûr qu'il y a eu doute, bien sûr, face à l'article « Cet inénarrable imbécile », mais derrière, non, il n'y a pas eu de doute.
De l'autre côté... C'est vrai que bon, il y avait des trucs qui pêchaient un petit peu. C'est vrai qu'au niveau sécuritaire, c'était pas exactement aux normes.
Ouais.
Le truc qu'on a dit qu'il y avait des empoisonnements, c'était faux, bien sûr.
Absolument.
C'était voilà. Mmh. Mais bon, ça a permis quand même de régler un petit peu tout ça, même un peu de te remettre en question toi aussi.
Alors, vu que les normes de sécurité dans un établissement qui reçoit du public changent tous les ans et même plusieurs fois par an. Est tout à fait est quasiment impossible à tous les établissements recevant du public d'être absolument aux normes, ça il faut le savoir. Après derrière bon ça n'était qu'une réorganisation de tout le matériel etc. Donc de se remettre dans la norme.
Et une remise en question quand même.
Et une remise en question
de ta carte, de tes prix, de tout ça.
Voilà oui même, hein. Oui une remise en question culinaire. En fait, au niveau de la cuisine, bon, je crois que tous les chefs de cuisine sont dans la révolution permanente. Donc, tous les six mois, de toute façon, on se remet en question. On se remet en question, parfois inutilement, puisque bon, ce qui marche n'est pas à changer. Mais bon, on a envie de changer, on a envie d'avancer, de proposer d'autres goûts, d'autres saveurs, une autre vision. La mienne, par exemple, à l'heure actuelle, est en train de changer lentement. Bon, je ne veux pas en dire, je n'en dirai mot aujourd'hui, mais je suis le cheminement logique de tous les cuisiniers, de tous les artistes culinaires, les mercenaires de la fourchette et de la poêle.
Joli. On voit quand même le poète là-dedans. Est-ce que tu es poète aussi dans ta cuisine?
Je suis poète dans ma cuisine, oui. Oui, je suis poète dans ma cuisine parce que je m'y retrouve. À savoir, par exemple, bon, la semaine dernière, je m'étais offert... je me suis relu un Maigret. Un bout de Maigret. Et ça m'a donné envie de cuisiner. Comment cuisiner du temps de Maigret? De faire des pâtes mélangées à la sauce tomate, etc., bien épaisse, avec du fromage qui coule, un truc pâteau, etc., qui cale bien, avec une belle daube. Voilà des plats qui sont oubliés. Il est tout à fait hors de question, bien sûr, maintenant, c'est pas tellement au goût du jour, mais quand même, de temps en temps, ça fait du bien de ressortir ces gros classiques du bar, de la brasserie d'antan. Voilà.
Qu'est-ce qui est le plus important, d'avoir du monde ou d'innover, ou alors d'avoir du monde en innovant?
Tu m'as déjà soufflé la réponse. ce qui est important, c'est d'avoir du monde qui est content en repartant. C'est-à-dire, voilà, et qui disent merci monsieur, nous avons passé un bon moment. Et derrière, nous sommes toujours à l'écoute, bien sûr, de la personne qui dira là j'aurais préféré que ce soit comme ça, parce que dans cet avis là il y a 50% d'intention et 50% de façon. Donc alors entre les 50% pardon de sensation et les 50% de fabrication, il va y avoir 1% de plus et de moins. Il faut être très à l'écoute de ce 1%. C'est lui qui est déterminant. Voilà, c'est comme dans un vote, en fait.
Là, la suite de ces histoires, hein, bon, c'est-à-dire que tu as été intoxiqué, toi, et oui. Tout, personne d'autre.
Nobody else.
Il s'avère que tout le monde a été surveillé au cas où, mais le seul vrai intoxiqué, c'était toi, dans l'histoire. Du coup, la sécurité s'en est mêlée. Pour quelques trucs, on ne t'a pas accepté immédiatement la réouverture, tu as rouvert après. Est-ce que c'est difficile de refaire sa clientèle quand on passe 3 ou 4 mois de fermeture, ou plus peut-être, et les gens perdent ses habitudes peut-être?
Ah, ça c'est une certitude. La vie continue, la rivière passe, et la vie continue sans nous, c'est clair. Moi je suis assez habitué à ces choses-là, puisque bon, dans ma vie j'ai été disjockey. Sachant que lorsqu'on quitte un nightclub, tous les clients vous disent « Oh, mais je reviendrai plus », etc. et tout. Et puis on les retrouve exactement au même endroit, à la même place, 3 à 4 semaines après, et on n'est que de passage, quoi. Donc, c'est un nouveau sillon à recreuser, et puis de dire « Bon, ben voilà, il faut que je revienne ». Alors bien sûr, il y a les états d'âme... Oui, plus personne ne m'aime, plus personne ne viendra, je suis plus au goût du jour, je n'ai plus l'envie,
Ces gens reviennent, est-ce que ça?
Oui, absolument, tout le monde est revenu.
T'as déjà la table du mardi?
Voilà, oui, ça, la table du mardi, ce sont des fidèles.
Est-ce que ça aide d'avoir, justement?
Oui.
Une table fidèle qui fait que ça redit aux autres que ça existe.
Oui, c'est restructurant, c'est constructif, c'est solidifiant, on va dire même. Ça met en place, ça remet en place. On se recale, quoi. On se dit, oui, voilà. Par exemple, donc la chose s'était passée il y a un an. J'avoue que la semaine précédente, le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, j'étais un peu dans une espèce de pré-Saint-Barthélemy. j'étais pas très bien, en me disant, mais bon, est-ce que les gens vont revenir? Est-ce que je vais faire cette soirée de Saint-Valentin que j'aime bien faire avec les chandelles, avec cet instant d'intimité, de chaleur partagée? Et je l'ai revécu, mais je l'ai revécu avec une force, une intensité plus que doublée, quadruplée, quintuplée, multipliée par 100 millions de milliards de kilomètres carrés, bien sûr, et tout ce qui va avec. Il y a eu du monde, oui.
Alors qu'est-ce qu'il y avait de différent avec la Saint-Valentin de l'année d'avant?
Avec la Saint-Valentin de l'année d'avant, eh bien, pas d'ambulance.
Ah oui, parce que c'était le jour de Saint-Valentin.
Oui, ce fut. Maintenant, bon, ça devient un lointain souvenir. Et les gens qui étaient là, donc, le jour de Saint-Valentin, m'ont bien fait comprendre, et les sourires et les tapes sur l'épaule... m'ont fait chaud au cœur. Voilà.
Eh bien, on va faire la première pause musicale. Alors, je ne sais pas ce qu'il va y avoir.
C'est une autre partie musicale de moi-même. Bon, tout le monde sait que j'aime bien la funky, que j'aime bien le jazz, etc. Mais j'aime le rock'n'roll aussi. J'aime bien aussi la new wave, etc. Et puis, bon, notamment toute cette période des années 1978-1979 où sévissaient des groupes comme B-52s, etc. Donc là, on part sur Love Shark et croyez-moi, ça déménage.
Allez, on écoute.
Looking for the love, get away.
Voilà, ça, si c'est pas de la musique, alors.
Ah, ça a été un grand plaisir.
En fait, tu es le cuisinier disjockey, quoi.
En fait.
Ton premier truc, c'était quoi, disjockey, quand même?
Non, mon premier truc, c'était cuisinier.
Cuisinier?
Ouais, ouais, ouais. Je suis sorti de l'école hôtelière, j'avais 17 ans. Et j'ai rejoint. Bon, déjà, je commençais un peu à mixer dans les nightclubs le dimanche après-midi ou pendant quelques soirs de congé. Et ce qui m'a valu une ou deux fois de me faire renvoyer, puisque c'est pas tellement compatible de se coucher à 7h du matin et de reprendre au travail à 9h, hein. Voilà. Bien sûr. Et après, à Nice, mais l'occasion, enfin, à Toulon, l'occasion opportune a été, enfin, l'occasion d'être disjockey m'a été présentée. Je l'ai pas laissé passer, j'ai choisi.
T'as jamais laissé en rade?
Ah, de Toulon. Non. Mais
comment tu as eu cette envie? Parce que bon, en ce moment, moi, je trouve que c'est sympa. On regarde les émissions culinaires.
Oui.
Moi, je trouve que c'est sympa, ouais. Top Chef et compagnie, là.
Mm-hmm.
Dont, justement, bah, il y a Quentin.
Quentin Bourdi,
qui, ouais, qui en fait, ouais, partie. Ouais. Est-ce que toi, tu aurais aimé faire une émission comme ça?
Très personnellement, je cracherais pas dans la soupe. Je dis oui, bien sûr que je l'aurais faite. Ça, c'est clair.
Quand tu regardes, qu'est-ce que ça t'apporte? Parce que je regarde, bon, comme il y a par exemple, tu te dis Laurent Lolo.
Oui.
A par exemple fait une émission avec à la télévision, une émission de voilà.
Oui.
Et d'un coup, tac, tu es sous les feux de la rampe, on parle de toi partout.
Oui.
Est-ce qu'on t'oublie aussi après très vite, hein, d'un coup? Est-ce que c'est intéressant ou pas intéressant?
Je pense que c'est déjà intéressant, bon, de participer à une telle chose, parce que c'est un événementiel énorme, quoi, dans une vie, d'être sous les feux de la rampe. Après, bon, bien sûr, il faut le digérer, tout ça, hein, faut pas se prendre la tête, hein, faut pas que les chevilles enflent.
Est-ce que toi, tu as déjà été sous les feux de la rampe, hein?
Oui.
À un autre niveau, que ce soit?
Oui, oui, je peux dire, oui, je travaillais pour Télé Monte Carlo, je pense que j'étais un des meilleurs disjockeys de la Côte d'Azur. Et que je gagnais très très bien ma vie, puisque à l'époque, donc il y a 30 ans, il y a plus de 30 ans, je gagnais minimum 3000 euros par mois. Ce qui fait 20 000 francs, minimum. Ça, c'était mon minimum.
Pourquoi tu as arrêté?
Pourquoi j'ai arrêté? Parce qu'un jour, je suis venu dans le Rouergue, enfin, en Quercy, je suis venu à Figeac.
Et tu as rencontré l'amour?
J'avais déjà rencontré mon amour, hein.
Oui.
Mais,
je me suis aperçu plusieurs fois l'amour, oui, différemment.
Oui, mais bon, chasser le naturel et revient au grand galop. Moi, je suis
chasser le naturiste et revient,
voilà,
au grand galop.
Aussi. Voilà. Et donc, je suis un fils de pêcheur, je suis un fils de pêcheur et de paysan par mes racines, et de sculpteur aussi, de peintre. Et, j'ai viré tout le superflu et je suis rentré, dans les canons que j'aime, quoi. Voilà, c'est vivre
aussi,
ici.
C'est aussi que tu as vécu, et puis un jour tu t'es dit, bon, allez, on pose les valises un peu quand même.
Les valises, je sais pas si... Non, je ne prendrai pas dans ces termes-là.
Tu as un peu quand même posé les valises, là. Tu as fait 8 ans, tu as créé toute une famille, tu as fait tout un cocon d'amis, de ci, de ça, quand même.
Oui, mais tout en fait...
Tu serais prêt à tout changer, d'un coup.
En fait, tout change autour de moi. Je fais partie des gens qui croient en l'impermanence. Donc, rien de ce qui est aujourd'hui ne sera demain.
Rien n'est jamais acquis à l'homme. Voilà. C'est ça,
ouais,
un peu.
Ouais, ouais, ouais.
Donc, tu penses que... Est-ce que le fait d'avoir cru que tu mourrais, ça te reste, laisse dans une même place, ou ça te dit, hop, 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 si je ne fais pas là maintenant, si je ne tente pas des trucs, ça sera maintenant ou jamais?
Oui.
Est-ce que ça change tout dans la tête un peu?
Ah, mais ça change tout dans la tête, bien sûr. C'est ne pas perdre de temps, c'est...
Est-ce que ça change tout dans ta vie?
Oui, ça change tout dans sa vie. Oui, oui, oui. Enfin, dans la mienne. Après, il y a ceux qui restent au même endroit.
Oui, mais quand on est en famille...
Oui, mais quand on est en famille, eh bien, on ne perd pas de temps.
Alors, est-ce que tu penses que tout ce que tu as envie de bouger, ta famille va suivre, ou tu es prêt à te dire, bon... Je vais tenter autre chose, je sais pas.
Alors.
C'est indiscret, il faut peut-être pas me parler.
Tout est une histoire, non.
Parce qu'il y a des gens qui écoutent, forcément.
Oui, mais tout est une histoire de partage. Moi, je suis, en fait, en ayant fréquenté la Camarde, je suis plus au niveau de l'opposition, le oui et le non. Non. En fait, je suis au niveau du ET, de « et ». Voilà, c'est ça et ça. Et c'est pas ça ou ça, c'est ça et ça. Donc c'est un peu de ceci et un peu de cela font que, ma foi, tout le monde est heureux et que, bon, on avance et on partage. Et très évident que s'il ne tenait qu'à moi-même, si je n'avais pas d'enfant, si je n'avais pas la personne, bien sûr, qui a accompagné ma vie, à savoir Sonia Fernandez, peut-être et très certainement que j'aurais été tenté par l'aventure de la Camarde, pourquoi pas, et que j'aurais flambé ma vie à 3000 km/h. Et que je serais parti l'esprit content en étant ce voyageur curieux qui partirait pour cette exploration intimiste qui est la mort. Je partage.
En expliquant aux gens que la Camarde, c'est la mort, bien
voilà,
sûr.
Ouais.
Les gens croyaient que la Camarde, qui ne m'a jamais parlé,
la Camargue.
La Camargue.
Ouais, ouais. Non, non, j'en ai fait partie aussi mort. Pendant longtemps.
Camarde.
Ah, ouais. La Camargue. Ça me surprenait tout le temps.
Ceci dit, de mourir en Camargue, ça ne doit pas être désagréable.
Ça ne doit pas être désagréable, d'autant plus que ce fut un des parcours de mon enfance. Et de mon enfance culinaire, puisque j'ai fait plusieurs stages dans une célèbre maison qui s'appelle Ranch Cacharel. Et le monter à cheval, je le connais. Je connais le débourrage, j'ai dressé des chevaux.
Je peux témoigner.
Le galoper en pleine Camargue avec le Mistral dans les oreilles.
Un des morceaux que tu aurais pu choisir aujourd'hui, c'est Galon Camargue.
Ah, ou Subol, oui. Ou,
non, mais Galon Camargue fait par le flamenquiste de Gitan.
Des Gitans. Gypsy King.
Non, bien avant.
Bien avant. Ah connu. Oui, oh, comment il s'appelait-il?
Qui a signé Galo en Camargue,
oui,
le copain
oui,
de Brigitte
Bardot. Mon Dieu. Comment
sur
il s'appelait?
Son nom ne revient plus, mais il ne revient
oui,
pas
oui,
tout
oui,
à l'heure.
Oui, un homme merveilleux avec des chemises extraordinaires.
Ouais.
Ah, je suis en plus totalement fan.
Donc ça, son morceau tube ouais. S'appelle Galo en Camargue.
Galo en Camargue.
Voilà. Tout à fait. Alors, est-ce que cette histoire un peu de trouille de mourir, ça t'a pas boosté un peu le fait de revenir à tes racines, à savoir la Guadeloupe?
Ça me booste tout le temps. En fait, moi, je suis un être multiracinaire, donc je suis bien ici et je serai bien là-bas aussi. Mais je peux être bien ailleurs, ça c'est clair. La Guadeloupe, elle fait partie de moi, je l'aime, je la chéris. Je chéris et j'aime le Gard, l'Aveyron, le Lot... et la Provence, voilà. Donc je suis un homme de la Septimanie, du Grand Languedoc-Roussillon, de la Gascogne et de la Guyenne réunies, et je suis
citoyen du
l'homme
monde,
de la Guadeloupe.
Néanmoins.
Citoyen du monde, oui. Et je regrette une seule chose, c'est de ne pas l'être encore plus. J'aimerais voyager tout le temps, oui. Là où j'en vis, par exemple, je regarde jamais les émissions culinaires, il faut le savoir. Sinon, j'ai l'impression d'être au travail.
Boulot,
voilà,
hein.
Voilà. Par contre, j'ai quand même jeté un œil sur, bien sûr, sur Quentin Bourdi, dont j'apprécie énormément cette façon authentique d'exister.
Je trouve très simple, très sympa.
Et je peux dire que s'il gagne pas le concours, il aura au moins gagné l'estime de la France entière, parce que j'aime les gens entiers. J'aime c'est un Aveyronnais. Voilà.
Et antillais.
Et antillais, voilà. Ah, putain, faudra les sortir, ça. Quentin, écoute, hein, Dudou, tu es antillais et Aveyronnais.
Moi, j'aime bien cette émission parce qu'elle m'a permis de découvrir ce monsieur. C'est sa sœur qui est chanteuse.
Non, sa mère.
Mais sa sœur.
C'est sa mère, c'est pas sa sœur.
Ah, c'est sa sœur.
Moi, j'ai toujours cru que c'était sa mère.
Non, Edwige, c'est sa sœur.
Edwige, c'est la sœur de Quentin.
Oui.
Ah, Dudou, vraiment, t'es dur de ce que tu dis.
Ah, ben ouais, là, je suis pratiquement certain.
Puisqu'il est entièrement certain, on va passer au prochain.
On va écouter le prochain morceau que tu as choisi.
Alors là, c'est
Mais dis-moi, là, c'est le cas, ce morceau que tu veux écouter.
Alors là, c'est une bombe.
Ah, il y a Marie-Laure aussi, c'est elle qui va l'envoyer, la bombe.
Allez,
la bombe qui va vous envoyer, la bombe.
Envoie la bombe.
Elle envoie la bombe.
Envoie la bombe.
Le deuxième morceau.
Le deuxième morceau, c'est Nous la gay.
Et non la gay.
C'est un avion un peu gay.
Et bien, c'est
enfin,
une bombe
tristement
aussi.
Célèbre.
C'est une bombe.
C'est une bombe. Et
allez.
Plouf.
Vas-y, Marie-Laure.
We'll be right back.
Et voilà, tu vois, c'est encore une musique que j'écoutais quand j'étais à Toulouse. C'était l'époque des boîtes de nuit, de Ubu, la Mandigote, le Méchant Loup, les débuts du bikini, parce que ça passait pas que dans les boîtes un peu...
Ça passait partout.
Ça passait partout.
Je sais pas, je m'en... Non, je m'entendais plus d'un seul coup. Je croyais que le micro...
Si tu t'entends plus avec toi-même, alors on va voir un psy, là.
Voilà.
Non, Nice, c'était l'avant-garde, je suppose.
Ah, c'était pas Nice, n'était pas l'avant-garde. Nice était une ville beaucoup trop classique et basée sur des canons de ville d'eau où il était de bon ton de vivre en cravate et en costume. Tandis que Toulon était l'avant-garde. Plus en avant que Marseille. Marseille était à la traîne. Il y avait trois spots qui étaient bien avant-gardistes. Paris, Avignon et Toulon. J'irais plutôt Toulon qu'Avignon. Sans le fait quand même qu'en Avignon, dans les années 70, 78, etc., on écoutait du Franz Zappa, quoi, quand même. Toulon et Paris, il y avait une espèce de connexion musicale qui était bonne parce que aussi tous les DJs de Toulon avaient plaisir à monter à Paris. On avait vraiment plaisir à monter à Paris, à aller se balader dans des boîtes insensées. Bon, bien sûr, le Palace, qu'est-ce qu'il y avait encore?
Tu as dû connaître la Churrascaïa.
La Churrascaïa, ça,
moi, j'ai joué, connu, la Churrascaïa. J'ai joué deux fois avec Didier Bussin.
Ouais. Ah, la Chou.
À côté de la Grande Motte.
À côté de la Grande Motte.
Une grande boîte ronde en plein milieu des bois, avec des trous de chevrotine dans la porte.
Elle est magnifique, elle existe toujours, faut le savoir, c'est quand même une des plus vieilles boîtes de France.
Et le leader, le patron, qui était un ami à nous, s'est tué dans un accident de voiture il y a une quinzaine d'années.
Ouais.
Et donc, rendons hommage maintenant à Galouan Camargue,
Ah, de Manitas de Plata.
C'est lui qui a lancé en fait tous les joueurs de flamenco un peu commerciaux comme comme ceux dont tu parlais.
Ah, les Gypsy Kings en fait.
Ou les Kings of Gypsies, c'est un peu la même bande. Ils ont fait, c'est tout ça. Voilà.
Oui, c'est la même bande.
C'est Manitas qui les a lancés.
Oui.
C'était les Bayardos.
Oui.
Les musiciens de Manitas. Appelé Bayardos, et tout ça, c'est tous les descendants des Bayardos.
En fait, ils sont très peu gitans, en fait, les BC Kings. Ce sont surtout des fils de Harkis, à l'époque, qui étaient subjugués, et qui étaient subjugués par la musique gitane, qui, roulait en Camargue. Moi, je me rappelle, quand j'avais 15 ans, l'hiver, dans les nightclubs, on passait de la musique, dite contemporaine, le hit parade, etc. Et à 2h du matin, ça s'arrêtait. Enfin, en semaine, bien sûr, pas le week-end. À 2h du matin, ça s'arrêtait. Les guitares sortaient en avant, quoi. Ça tapait, ça chantait, ça dansait.
Ouais, parce que c'est vivant, voilà. La vraie musique vivante, en fait.
Je recommande d'ailleurs à tous ceux qui passent par la Camargue de s'arrêter en Arles. Il y a des musées totalement gratuits avec une exposition permanente donc sur Manitas et Platas. Et ça vaut le coup parce que c'est quand même surprenant de voir cet homme-là qui vivait dans une roulotte et avait pour fidèle compagne une guitare.
Qui avait quand même une voiture...
Une rose blanche. Mais il continue à toujours à vivre dans sa caravane et jouant pour les plus grands, que ce soit.
Brigitte Bardot, c'est grâce à Brigitte Bardot qu'elle est devenue connue.
Pas
à l'époque où elle était Front National.
Non, ça c'est bien avant, quand il lui restait un zeste d'intelligence. Bon, voilà, ça y est, on s'est fait quelques amis. Nonobstant quand même, moi je suis subjugué par ce gars-là. Parce que il a joué à la Maison Blanche, par exemple. Kennedy l'avait fait venir. Et tu vois, ce gars-là qui arrive, pof, et puis il y a son retour. Et il revient avec son pote, dont je me rappelle absolument pas le nom. Il avait un fidèle compagnon qui lui chantait et donnait tout le tempo, etc. Ils arrivent, ils avaient gagné un peu d'argent, et ils font un grand repas pour les amis. Et après, il y avait plus de thunes. Mais par contre, il aurait pu vendre ses chemises. Il les a jamais vendues, puisque c'est Picasso qui fabriquait ses chemises. Je peux dire que chaque chemise est un sacré morceau de chef-d'œuvre. Manitas de Plata, si tu m'entends, où que tu sois, si tu veux te séparer d'une chemise, s'il te plaît, pense à moi.
Ça tombe bien, regarde.
À toi aussi, t'en as une.
Chemise de Manitas de Plata.
Ouais. Alors moi, j'ai décidé de me la faire graver tatouée. Comme ça, j'aurai pas de problème de repassage, etc. Et tout, je vais me faire tatouer une chemise de Manitas de Plata. Voilà.
Super. Mais auparavant, tu organises une soirée samedi Pour les 8 ans du restaurant.
Pour les 8 ans du restaurant, donc après un apéritif d'enfer, tout le monde sera convié à passer à la mastication, et la mastication musicale, puisque se trouvera un de mes complices, mes complices favoris et préférés, parmi tous mes complices favoris et préférés aussi, qui s'appelle donc Michel Vivux, V-I-V-U-X, et Cathy Fernandez, F-R-E-N-Z. Voilà.
Alors tout ça, ça se passe au restaurant Le Sud. Samedi soir. L'adresse, c'est déjà Villefranche-Rouergue.
À Villefranche-Rouergue, juste au-dessus de la collégiale, vous venez sur la place dite Lescure.
Alors, si on veut réserver, parce qu'il n'y a pas un milliard de places quand même.
Non, il n'y a pas un milliard de places, 05 65 45 68 16, voilà.
Quid du menu?
Eh ben, il n'est pas encore décidé. Et puis ça, ce sera une surprise. Voilà. Voilà. Ça, c'est.
Alors, comment ça se déroule une soirée comme toi, comme chez toi? Il y a l'apéro, puis voilà, le repas et intervention musicale.
Intervention musicale, à laquelle j'espère en participer un peu benoîtement aussi.
Mais il s'avère que depuis qu'on y joue,
ça se passe de temps en temps.
Tu fais partie, tu fais partie de la programmation musicale. Une différence avec Yann. C'est que tu t'es mis à jouer de la guitare.
Et
Moi, qui suis prof de guitare, je me suis rendu compte que tu apprends très vite.
Ah, merci. Je prends le compliment, je le garde sous le bras.
Mais tu peux.
Ouais.
C'est vrai.
Ouais. Pour moi, mon rêve était de jouer du piano. Sauf que emporter un piano sous le bras, c'est assez compliqué. Cinq mois d'enfer.
Tu joues déjà du piano.
Debout.
Dans ta cuisine.
Oui. Dans ma cuisine, je joue du piano.
Et comme par hasard,
je tire mes gammes.
Le fourneau s'appelle le piano.
Le piano.
C'est pas par hasard. C'est-à-dire que ça, c'est que signifie que le cuisinier, en fait, c'est un créateur. C'est comme, il fait comme une partition musicale. C'est pas par hasard si ça s'appelle le piano.
Oui, absolument. D'ailleurs, on fait ses gammes. Quand on travaille en cuisine, on dit, tiens, je fais mes gammes. Voilà. Pour la petite anecdote, moi, j'avais découvert à l'âge de 15 ans, Boris Vian. Même avant, j'avais 14 ans, je crois que j'étais en troisième.
J'ai craché sur vos tomes l'herbe rouge.
Alors, ça devait être ça, ou les fourneaux. Non. Ouais, l'herbe rouge. L'herbe rouge, oui, attends, l'herbe rouge.
Le premier, c'était j'ai craché
sur vos tomes. Donc, c'est peut-être, peu importe, c'est un des deux. Ou Boris Vian, donc ça se passe en Irlande, et il y a un pianiste qui a un piano, et chaque touche correspond à un liquide. Et donc, il fabrique des cocktails assez insensés en jouant. Donc, il part à la restructure, comment on pourrait dire ça, la réhabilitation contemporaine de ce fameux cocktail qui s'appelle Bloody Mary, que l'on fabrique avec du jus de tomate, sel de céleri, etc. Et bien sûr, du gin ou de la vodka selon les goûts. Et là, c'est une apothéose, quoi. La façon dont il raconte ça, c'est assez extraordinaire. En fait, j'ai appris à jouer du piano. Enfin, j'ai commencé à apprendre à jouer du piano, mais non pas à apprendre, à fréquenter les pianos. Parce qu'à l'école hôtelière, il y avait une salle de musique. Dans cette salle de musique, il y avait un piano. Et j'étais le seul qui pouvait rentrer dans cette salle de musique et jouer du piano. Alors à l'époque, j'étais un peu désespéré, comme on est toujours désespéré un peu quand on est adolescent, les chagrins d'amour, etc. Puis bon, les petits problèmes parentaux, etc. et tout. Et donc j'y passais de longues heures à pianoter. Alors je fermais les volets. D'ailleurs, j'ai toujours gardé cette habitude. Lorsque j'apprends à jouer de la guitare, je ferme les volets, je m'enferme dans la pénombre et là je suis bien. Voilà, j'ai joué.
J'ai été témoin, maintenant tu es mon beau-frère, mais j'ai été témoin.
Aïe.
Et de quand tu as séduit ta compagne,
oui.
Parce que j'étais à côté de toi, tu as mis le téléphone à côté, tu t'es mis à jouer du piano et j'étais.
Non, tu n'étais pas à côté de moi.
Ah, si.
Non, tu étais à côté d'elle.
Non, pas du tout. Pas du tout. Je me souviens très bien où tu étais.
Attention.
J'étais à côté. Non, là, je me souviens. Tu étais au piano, moi j'étais à côté, tu avais mis le téléphone et tu as joué du piano. Et Sonia, donc ta compagne, était à l'autre bout et j'étais avec toi cette soirée-là. Tu t'en souviens pas?
Ah
moi, j'y étais, et elle a été séduite, effectivement, par ton truc du piano. C'était du côté de Figeac, effectivement. Je me souviens très, très, très bien de cette soirée-là.
Nous étions tous les deux.
Ah, ouais. Tu vois?
Ce qui me fait peur avec l'âge, Non mais c'est quand même dingue. J'étais tout seul, je jouais sur un piano crapaud et
vrai.
Sonia était chez toi.
Non.
Et tu écoutais. Et
ah
tu
disais, non, oh. J'étais à côté de toi.
Alors je l'ai fait deux fois.
Ah ben le premier coup tu l'as fait, j'étais à côté. Non, je me souviens très
c'est mon arme favorite ça à l'époque, ouais. À l'époque c'était mon arme. Ouais. Je jouais Hollywood Chewing Gum, non, c'était pas Hollywood, c'était Sorry Angels in the Night.
Non. Ouais, là c'était un truc un peu
ouais.
Un peu très calme, très.
Ah, ça, c'est un morceau que. C'est le seul morceau que je joue au piano, parce que c'est moi qui l'ai inventé.
Ben voilà. Et là, elle est tombée dans tes raies.
Eh oui.
Puis elle est restée, donc ça fait donc.
Ça fait plus de 20 ans.
Voilà. Mais j'étais là.
Eh oui.
Et oui, mon ami.
Tu étais là.
C'est le tout début.
Ouais. Au tout début.
Ah, ouais.
Oui.
Et est-ce qu'il y a un piano maintenant au sud?
Oui, il y a un piano.
C'est pas Figeac, mais c'est par là-bas.
Non, ouais, c'était ici. Bon, je dirais. Ouais.
Non, c'est pas ici.
Bref,
il y a un piano.
Il y a un piano.
Est-ce qu'il sert pas trop?
Il sert pas trop, hélas. J'aimerais bien trouver un pianiste. Ah. Ça, si tu sais jouer du piano, si tu aimes jouer du piano sans qu'on te demande et que l'on t'impose quoi que ce soit, eh bien, viens me voir au sud parce que vraiment, je serais bien content de passer quelques temps, quelques soirées et à t'écouter. Voilà.
En ce moment, il y a tout un renouvellement des tenanciers de lieux sur Villefranche.
Oui, c'est pas
et
mal.
Et tout un tas aussi de gens qui cassent.
Qui cassent. Qui
cassent les vitres, qui cassent les lieux, qui cassent les couilles, un peu. Ah. Ça vient d'où, ça, à ton avis, cette histoire-là? En ce moment, il y a plein de renouveau. Bien, pas bien.
Il y a le renouveau des patrons qui changent, etc. et tout. Mais c'est tout à fait normal parce que bon, on tient son affaire, etc. et tout. Quand, moi j'ai toujours, hein, quand on ouvre quelque chose, bon, ben, il y a aussi l'envie aussi de la réaliser, de la vendre. Mmh. Et pour grimper, gravir une marche, comme par exemple, Hassan Ben Ahmed l'a fait avec, le Saint-Jean. Et comme d'autres l'ont fait, anciennement chez Jean André, etc. Et tout.
Voilà, mais par exemple, le truc des arcades, le mec, il ouvre son truc, quelqu'un vient, non pas pour voler, mais pour détruire.
Oui, mais ça...
Là, parce qu'ils ont tout pété les vitres, c'était pas pour voler quoi que ce soit, c'était pour abîmer. Pourquoi ça,
Parce qu'on vit dans une société qui est complètement déréglée, où les comportements ne sont pas ce qu'ils devraient être, et que de toute façon, comme il y a un appauvrissement, dès qu'il y a appauvrissement, il y a violence. On sait très bien que l'humanité, dès lors qu'elle se sent en danger, c'est comme quand on met des animaux dans un piège attendu avec, par exemple, on fait rentrer un troupeau de buffles ou d'éléphants dans ces espèces de grands pièges-là, tendus de filets, etc. Il faut pas très longtemps pour qu'ils commencent à s'entretuer. L'humanité, elle est pas plus évoluée que ça. Et que, bon, ben, dès que ça va mal, on assiste à des dérèglements, à des prises. Bon, c'est une colère dirigée, quoi. Bon, attention, comprendre ne veut pas dire excuser. Non plus. Parce que bon, le gars qui s'est fait casser sa vitrine, il s'est fait casser, quoi. Et c'est pas sympa non plus. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ben, c'est à nous de changer, quoi. C'est à nous de changer, c'est à nous d'organiser notre vie. Après, chacun fait ce qu'il veut, comme il le veut. Mais ce serait bien que tout cela change et que tout cela s'arrête et que tout le monde retrouve le vrai plaisir de vivre et de partager.
Le vrai plaisir de vivre, c'est d'écouter aussi de la bonne musique. Hein.
Ça, c'est clair.
D'où le troisième morceau que tu nous as choisi.
D'où le troisième morceau que je t'ai choisi et dont je ne me rappelle plus le nom,
c'est
mais
pas
il
grave,
suffira
on va
que
l'écouter.
Tu me lances tout doucement l'intro. Je te fais la présentation.
Marie-Laure aussi connaît dans les
Vas-y.
Préliminaires.
Envoie le préliminaire. Ah, Radio Clash.
Subscribe to the international plan. In the psycho channel. orgy is an urban Vietnam, giving deadly exhibitions of murder, panic, palm.
C'était un
grand groupe qui était un des plus connus à l'époque.
Oui, oui.
C'est quelle époque c'est
donc, pareil, 60, 79, oui, pareil, 79, 78, enfin 78, 79, 80 même. Voire, que je dise pas de bêtises, 81, oui, 81, 82.
80, belle année. Mitterrand, abolition de la peine de mort.
Oui, première révolte urbaine au Royaume-Uni. Grosse grève contre la dite dame de fer, moi je l'appelle la dame de sang, Margaret Thatcher.
Un tour de poitrine de Marie-Laure, c'est une belle année. Alors, 91, je m'en...
Oui, il me semblait
91,
bien.
91, 60, 91, 91 voilà. Ouais. Et l'autre jambe, pareil. Quelle est la différence
entre tour de...
Marie-Laure, on l'adore. Et on espère vraiment qu'elle va rester avec nous longtemps, longtemps. Oui. Alors, dis-moi la différence entre le restaurant, que tu as créé à Figeac,
oui,
et le Sud.
Ah, ben, c'est comme apprendre à marcher et puis marcher.
Voilà. C'est-à-dire voilà. Que tous les. Mais est-ce que c'était pas plus, peut-être plus vrai, tout ce que tu as fait à Figeac, que maintenant? Maintenant, tu as l'expérience, mais là-bas, est-ce que c'était pas peut-être plus. Plus excitant, je sais pas, je te demande. Là,
non, parce que j'ai toujours
c'était
été.
C'était ton première expérience ouais. Culinaire, quand même. Culinaire.
Culinaire. J'avais déjà tenu quelques établissements, quand même.
Ah bon?
Puisque, bon, j'ai eu une ascension assez fulgurante dans la chose, puisque, bon, je travaillais J'étais quelqu'un qui était capable de travailler la nuit et de travailler le jour. Voilà. Donc, quelques heures de sommeil à peine me suffisaient. Une chaise, un abribus, le bus, et je dormais, sommeil dit paradoxal, c'est-à-dire 10 minutes de ci, de là, et j'étais capable donc, de tenir.
Ça ne fait pas un établissement où on fait la cuisine et on devient.
Je suis devenu. En fait, pour moi, ça semblait une éternité. Et puis, il y a quelques temps, il y a des amis qui m'ont dit, mais en fait, tu n'as mis que 8 ans pour ouvrir ton premier restaurant. Voilà. Parce que, bon, je ne suis pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Et personne ne m'a offert de restaurant. Voilà. Il a fallu que je me le crée.
Est-ce qu'avant le Sud, pendant 8 ans, tu as fait ça?
Non. Pendant 8 ans, avant le Sud. Avant le Sud,
avant le Sud, j'ai eu.
Ah, mais à Figeac, j'ai ouvert un restaurant lorsque je suis arrivé.
Je t'ai demandé la différence entre le restaurant de Figeac et le Sud.
Aucune. Si ce n'est que l'expérience d'une vie qui fait que, bon, j'étais mieux à même de comprendre ce qu'attendaient les gens de notre région. Lorsque je suis arrivé à Figeac, j'étais un Niçois mondain qui avait ouvert une affaire à sa dimension de Niçois mondain.
C'est pour ça qu'on dit au Niçois
qui manigance. Hein.
Voilà. Voilà.
Et en Niçois, on dit Niçois ni coton.
Niçois ni coton. On y revient toujours là, les deux.
Voilà.
Et donc maintenant, tu as trouvé ta plénitude au Sud.
J'ai trouvé mon entière plénitude au Sud, voilà. J'avoue que mon entière plénitude sera le jour où je gagnerai 100 millions d'euros au loto, auquel je ne joue jamais. Et que j'irai en vacances si j'ai envie de prendre l'avion.
Tu as peur en avion?
Non, absolument pas. Non.
Tu as pris l'avion?
Oui.
Récemment, il y a 45 ans. C'est quand?
Le grand dernier grand voyage, c'est il y a 30 ans. Boeing 747. D'ailleurs, tiens, c'est dommage, j'aurais bien aimé avoir le truc de, comment il s'appelait, Robert Charlebois.
Lindbergh.
Et Pan America. Alors ça, c'est un morceau, mais absolument génial. Putain, ça, c'était divin. D'ailleurs, la première fois que je prends l'avion, clac, l'hôtesse de l'air arrive, et à l'époque, on te proposait un écouteur, alors qu'il fallait payer, on payait la location de l'écouteur. Donc, ça faisait quelque temps que l'avion avait décollé. Nous survolions encore, la France. Et là, je me pose les écouteurs sur les oreilles, bien sûr, pas sur le nez.
Sur les genoux, ça marche
ça marche pas. Et là, j'entends l'aigle noir de Barbara. Ah. Alors là, j'étais dans l'extase la plus folle.
C'était un matin ou
non, c'était un jour. C'était un jour.
Oui.
Peut-être.
Ce jour-là,
il devait être, l'avion avait décollé vers les 11h, parce que ça, c'est fondateur quand même, vers les 11h du matin, et partir d'Orly, laisser l'avion décoller, et puis, s'envoyer en l'air.
Eh bien, écoute, on arrive à la fin de l'émission, c'est passé trop vite, là. Rappelle-nous ce qui se passe samedi. Donc
samedi, je donne rendez-vous à tous mes amis.
Même les ennemis.
Même les ennemis. Amis et ennemis, venez nombreux de 19h à 20h déjà. Nous serons ravis, heureux, satisfaits de vous accueillir dignement. Et à la mesure de votre gentillesse, nous tâcherons d'être là, présents, et de vous faire passer un bon moment. Et après, si vous voulez passer en A', restez manger et vous verrez, ça va être chaud.
Repas, spectacle, et voilà.
Voilà, avec Michel Huivoux et Cathy Fernandez, dont on...
Et tous les gens qui sont là, qui participent.
Il y aura certainement Sonia Fernandez qui nous poussera à son fameux
Hôtel California.
Voilà. Et quant à moi, je ramasserai les gamelles. Et nous aurons quelques copains musiciens, puisque nous savons qu'il y en a quelques-uns qui viendront.
Chris Papin, entre autres.
Et compagnie. Et tous ceux d'agréable compagnie des musiciens que je salue, parce qu'il y en a beaucoup qui sont venus nous aider.
Ils sont tous là.
Oui, c'est vrai, j'espère, seront tous là.
Dès qu'ils ont entendu ce cri, ils vont continuer le Sud. Eh bien voilà, on se quitte. Un gros bisou à vous.
à toutes et à tous.
Mardi, musique enregistrée avec la lettre G. Un grand bisou à Marie-Laure. Nous a fait hurler à la mort.
J'y crois pas, la lettre G. Il n'arrêtera jamais.
Et merci beaucoup.
Même si jamais ne commence pas par un G.
Bonne semaine. Ciao. What's the matter with you, boy?